Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, mon invité c'est Azouz Begag. Bonjour Azouz.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Fort bien.
Très bien. Ça fait content de vous voir. Enfin, ça fait plaisir. Ça fait content de vous voir. Hein. Ça fait drôlement
ça
content
fait
de vous
heureux,
voir, Azouz Begag.
Ça fait heureux.
Vous publiez Mémoire au soleil chez l'éditeur de vos premiers succès, Le Seuil.
Ouais. Ça me fait plaisir de dormir dans la maison.
Vous revenez à la maison,
oui,
hein.
Oui.
Genre, c'est un roman, en tout cas c'est ce qui est écrit sur la couverture. C'est un peu bizarre quand même de voir que vous avez écrit roman dans votre livre, alors que le héros s'appelle comme vous.
Oui, disons que c'est une autofiction. On peut évoquer ce terme, autofiction.
C'est-à-dire qu'il mélange... quoi la différence entre...
Non, c'est une autobiographie qui est matinée de fiction, voilà. Ou alors une fiction qui est... alimenté par énormément d'éléments autobiographiques de l'auteur, et notamment son nom, le nom de son papa, de sa maman, tous les éléments biographiques de sa famille,
oui,
et celle de la géographie de l'Algérie, de l'Est, où ils sont nés.
Oui, et puis il y a votre histoire, pour ceux qui la connaissent, à quelle distance vous vous êtes tenu de votre histoire?
Ah, c'est une question extrêmement difficile, à une distance émotionnelle, je dirais. Je me suis laissé complètement téléguider par les émotions dans ce livre.
Mmh. Ça sent, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé que c'était votre livre le plus personnel, en tout cas.
C'est vrai?
Ouais.
Non, je crois que vous allez dire le meilleur.
Et le meilleur. ça peut être le plus personnel et le meilleur. Et le meilleur, c'est ce que j'ai dit hors antenne.
Ah oui. Non, est-ce que...
Le plus triste, en tout cas.
C'est pas vrai.
Ah si, c'est triste.
Non, je pense plutôt que c'était un livre humoristique, plein de petites anecdotes... super historique pour quelques-unes. J'espère qu'on va en parler,
oui,
sur le site Mémoire des Hommes. C'est pas
alors le site
triste.
Mémoire des Hommes, pour expliquer à ceux qui nous qui nous écoutent, c'est qu'un jour vous avez tapé votre suite à un reportage à la télévision.
Oui, mais surtout suite à 30 ans de recherche sur quel est le vrai nom de ma famille.
Donc c'est Chaouche.
Ben on n'en sait rien et je ne le saurai jamais. Chaouche ou Begag, voilà. On n'en sait rien.
C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes même pas sûr de vous appeler Azouz Begag.
Azouz, si, mais Begag, non. Mm. Et mon père, oui, vous avez raison de dire, on ne sait pas s'il s'appelait Bouzid, ou si son prénom.
Puisqu'il...
C'est incroyable, cette histoire de nom, que je découvre.
Parce que c'est une enquête. C'est une enquête.
Oui, c'est une enquête littéraire.
Pourquoi ne pas avoir appelé votre livre La vie domino? C'était pas un bon titre?
Eh ben, si, parce que ce petit livre, cette petite nouvelle-là est publiée il y a plusieurs années. C'était le décor du café où se déroule l'histoire-là.
Qui a un nom de soleil, ce café.
Ouais, ça s'appelle le café du soleil. Où le soleil, évidemment, à Lyon, dans ce petit quartier où les rues sont des ruelles extrêmement étroites, où le soleil ne pénètre jamais, et où le patron du café, Amor Plastique, nourrit depuis 30 ans une seule plante verte, et il l'arrose tous les jours, minutieusement, mais elle est en plastique. Et il espère qu'un jour, Dieu fera un miracle, et que le soleil rentrera au café, et que la plante poussera.
C'est un livre sur la mémoire généalogique,
ouais,
en gros, c'est
bon,
ça
ouais,
un homme
ouais,
qui se bat pour que sa mémoire généalogique soit activée.
Oui, surtout parce que mes deux parents sont morts, évidemment. Et puis pour laisser à mes enfants des bribes d'une histoire, de savoir d'où on vient, de qui on est, de quelle tribu on relève là-bas dans cet est algérien, au pied du massif des Babors, à l'entrée des gorges de Kerata, à l'est, très connu, à Sétif, pour les massacres que l'armée française y perpétra en 1945.
En mai 45, hein.
Oui, bien
parce
sûr.
Il y a 2-8 mai 45.
Mes parents avaient 20 ans, 30 ans, là, le 8 mai 45. Et c'est incroyable qu'un jour, ils m'ont dit qu'ils ont vu le déclenchement des tirs avec ce curé qui s'appelait Navarro, qui était le curé de Périgoville, juste à côté de leur village élauricien, qui a été descendu sur sa mobilette jaune. Voilà ces éléments de détails historiques.
Ça ferait une bonne BD, vous savez.
Oui, oui, parce que vous faites allusion à ma BD Leçon coloniale, très joli travail que j'ai réalisé avec le sublime Defali Djilali.
Vous êtes d'accord avec cette phrase, moins on a de racines et moins on risque de s'y prendre les pieds dedans?
Ouais, c'est Nabil qui dit ça, le frère de l'auteur. Il a tort, je crois. Certes, le meilleur moyen de devenir universel, c'est-à-dire de se sentir bien quand on est d'origine maghrébine, née en France, de se sentir bien à Rio de Janeiro, ou bien à Salvador de Bahia, ou bien à Bali, ou à Sumatra, ou à Java, ou à Bornéo, c'est de savoir quelles sont ses propres racines. C'est quand on les a dans la poche, les racines, qu'on est bien à l'aise partout où on va dans le monde.
Pourquoi ?
Parce que on est en équilibre.
Parce que vous vous rendez compte que vous avez un nom qui n'est peut-être pas le vôtre. Qu'est-ce que ça change au fond ? Qu'est-ce que ça change à votre vie ?
La transmission. Transmission. Il faut transmettre aux enfants quelque chose de soi et quelque chose de ses racines. C'est ce qui fonde fondamentalement une identité. Autrement dit, une identification. Mmh. Moi, je m'identifie absolument dans 90% de mon être à la terre originelle de mes parents, la région sétifienne. Et c'est, je crois, là-bas...
Mais depuis quand ?
Depuis peu, voilà. C'est ce pèlerinage, ce retour aux sources. C'est opéré, je crois, depuis la mort de mes parents. Déjà, la mort de mon père, c'est un choc terrible. C'est un premier uppercut dans l'estomac qui vous fait plier l'échine. Et la mort de la maman...
Votre père est mort d'une maladie incurable. C'est quoi un mot ? C'est
la vie.
Incurable.
De la vie. Hein. C'est affreux quand un médecin vous dit ça. C'est incurable. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire.
C'est irréversible.
En l'état actuel des connaissances. Mais je crois que finalement, plus j'entends ce mot, et plus je me dis que c'est la vie. C'est super difficile d'accepter l'idée qu'il faut partir, il faut faire ses bagages et s'en aller. Et s'en aller, ça veut dire qu'est-ce qu'on laisse derrière soi à nos enfants et aux enfants du monde, c'est-à-dire à l'humanité.
Mais quand on a tout oublié de sa vie, finalement, on est tranquille quand on part.
Ah, c'est super intéressant cette histoire. Et la maladie d'Alzheimer, en ce sens, elle est vraiment perturbante, mais ô combien intéressante pour un sociologue. Vous vous rendez compte, si tous les gens sont atteints à un certain moment de leur vie de cette maladie de l'oubli, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de préjugés sur les autres.
Exactement.
Et plus de préjugés. Et les malades d'Alzheimer, j'en ai vu beaucoup, sont des hyper réactifs émotifs. C'est les énergies qu'ils reçoivent de vous, ils ne savent plus qui vous êtes, hein, qui font que vous sentez bon ou vous sentez pas bon. Et si vous sentez pas bon, ils vous le disent. Et vous sentez bon, ils vous prennent, ils vous touchent. Mmh. Et vous vous rendez compte, ce type-là qui, le 6 avril 1968, à Memphis, Tennessee, aux États-Unis, qui a une arme en main, il est 18h30, il est sur l'hôtel, à l'hôtel Lorraine de Memphis, et il a un flingue, et il a en face de lui un grand homme de l'histoire qui s'appelle Martin Luther King, qui est à côté d'un autre sénateur. Et il est là pour tuer Martin Luther King à 18h30, mais il tire pas parce qu'il a oublié. Il a la maladie d'Alzheimer. Il ne sait plus. Et puis, c'est finalement, cette Madame Rosa Parks, qui aussi, en 1954, monte dans le bus et elle va s'asseoir au premier rang parce qu'elle est fatiguée, elle est noire. Et elle a oublié que là, le rang 12...
est réservé.
Oui, c'est la frontière, elle doit s'asseoir après le rang 12 parce qu'elle est noire. Et ça déclenche aussi pas mal de choses parce que le chauffeur lui rappelle les règles. Quand on a la maladie d'Alzheimer... On est affreusement libre au début des premières étapes de la maladie, en tout cas.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un livre contre l'oubli. L'importance aussi des aidants, de ce qu'on appelle les aidants.
La solidarité humaine,
ouais.
Magnifique. J'ai vraiment aimé écrire ça. Au Café du Soleil, il y a tous les amis de ce vieux travailleur là
qui l'ont toujours vu tous les matins dans ce café, ouais, depuis toujours.
Et qui tous les jours lui raconte une petite anecdote susceptible, comme quand on fait démarrer un moteur de chevaux avec une manivelle, susceptible de rallumer une braise en lui, une braise de sa mémoire. Et si elle se rallume, ils vont tous souffler dessus pour essayer que c'est pas possible qu'il retrouve la mémoire, qu'il, qu'ils se remettent en selle. Et tous ces amis, c'est la solidarité humaine. Ça vaut beaucoup plus, beaucoup mieux que l'internement dans une maison spécialisée pour Alzheimer, 3000 euros par mois en mangeant des soupes froides et des compotes de pommes matin, midi et soir.
C'est la réalité, hein, quand les familles peuvent pas assumer, hein, parce que c'est vrai que c'est, il faut les garder toute la journée, enfin c'est... Il faut les surveiller comme le lait sur le feu. Hein.
Ouais, cette écriture, ce roman est un roman absolument magique. Je l'ai sorti de je ne sais où. Et je suis entré dans une chambre d'hôtel à Chania, Lakané, en Crète, l'année dernière au mois d'août. Et quand je suis rentré dans cette chambre, j'ai ressenti un souffle de magie m'envahir. Et j'ai commencé à finir ce livre. Je me suis dit, c'est là que je vais le finir. Et pendant 30 jours, j'ai fait des découvertes somptueuses, littéraires en tout cas. Une écriture que je n'avais pas encore et qui est survenue là, dans cette chambre d'hôtel, avec une vue sur la mer de 300 degrés. Et quand j'ai terminé ce livre, je savais que j'avais réalisé quelque chose de beau, qui était absolument essentiel pour moi. Je devais le faire. J'ai dit à la maîtresse des lieux, Raphaëlla, tu sais, je viens de terminer dans ton hôtel, ton petit hôtel, un livre qui va changer ma vie encore. Et je te le dédicacerai, Klinakis, Chania, 2017. Elle a pleuré.
C'est les derniers mots de votre livre.
Elle a pleuré. Elle m'a dit, je savais, ce n'est pas le premier qui me dit ça dans cette chambre 303. C'est incroyable, ce livre, vraiment, c'est magique. Ça me fait plaisir d'avoir...
Pour tous les auteurs qui n'arrivent pas à terminer les livres. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un livre que vous n'arriviez pas à terminer?
Non, je tourne
autour
du pot.
Parce que vous n'avez pas dit que vous l'aviez commencé. Vous avez dit, je l'ai terminé, donc ça veut dire que...
J'avais commencé à planter le décor avec la vie domino. Voilà, je plantais un décor, les travailleurs là qui attendent. Dans ce café, le café du...
Mais qui joue au domino, parce que c'est...
Oui, ouais. Mais c'était pas ça, mon histoire. Mon histoire, c'était... Allez, on va se rappeler maintenant. On va partir à la recherche de qui on est, d'où on vient et pourquoi on a oublié. Est-ce que l'oubli de ce que vous avez souffert en Algérie, de l'exil pendant 40 ans dans ce bled froid et pluvieux, est-ce que l'exil c'était une thérapie? L'oubli c'était une thérapie pour vous? Pourquoi vous n'avez rien dit à vos enfants? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Voilà.
C'est pas qu'ils ont peut-être pas parlé, vos parents.
Ils n'ont pas parlé, nos parents n'ont pas parlé.
Ils ont parlé par proverbe, par...
C'est ça.
Oui, mais c'est toute cette génération qui s'exprimait comme ça.
Ouais. Et donc, nous, par métaphore.
Par métaphore. Donc, voilà. En fait, mais une métaphore, ça veut dire ce que ça veut dire, finalement.
Oui, mais quand on est enfant, on les comprend pas, les métaphores. C'est plus tard, quand on est au bord de la falaise et qu'on va partir.
C'est plein de bon sens, hein, finalement.
Oui, bien sûr. C'est délicieusement humain, intelligent, raffiné de ne pas raconter la mort, le sang, la guerre.
Les humiliations.
Oui, les humiliations. Et de laisser les enfants sentir les choses. Et c'est l'histoire finalement d'un roman dont le passeur essentiel, le papa du héros, a perdu la mémoire.
Perd la mémoire.
Et cette perte de mémoire remplit la mémoire de l'enfant qui n'avait pas pris le temps jusque-là de le faire.
Azouz Begag est avec nous. Le Book Club lit pour vous Mémoire au soleil. C'est un roman aux éditions du Seuil.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Azouz Begag est l'invité du Book Club à l'occasion de la sortie de Mémoire au soleil. C'est un roman aux éditions du Seuil. Ça se passe dans une famille d'extraterrestres. c'est un livre de martiens.
Oui, oui, oui. Parce que les types qui n'ont pas de généalogie, qui ne savent même pas leur nom, d'où ils habitent. Quand on va d'ailleurs, quand je suis allé retourner dans les mairies d'Eloricia et Amoucha en pays kabyle, petite kabylie, les actes de naissance de mes parents, il n'y en avait pas, il n'y avait rien. Il n'existe pas dans l'histoire.
Et vous expliquez pourquoi en fait.
Extraterrestre,
ouais. Bah, à l'époque, ce n'était pas les seuls peut-être. Hein.
Ouais, c'était le lot commun de tout le monde.
Mais ce voyage, vous l'avez fait quand?
Pas longtemps après.
Parce que vous êtes allé
après la mort de mon père.
Donc c'est celui-là donc après qu'il soit parti que vous avez fait, vous avez voulu entrepris de savoir et de connaître l'histoire de votre famille.
Ouais. Et puis de pouvoir aller là-bas dans la petite Kabylie et dire nous on est d'ici, on appartient à ce lieu, on aide ce lieu.
Mais pourquoi attendre d'avoir 60 ans pour le faire? Je ne veux pas vous vieillir, mais finalement, vous aviez plein d'occasions pour le faire avant à Zuzmekiag.
Ouais, non, mais c'est peut-être aussi, j'ai hérité la maladie de la fuite, la maladie de l'oubli, et peut-être c'est ce que raconte Nabil, le frère. On dit, moi tu as de racines.
Le frère du héros, oui.
Moi tu as de chance de t'empêtrer là-dedans, laisse tomber, cherche ailleurs, va-t'en, allons dans un autre pays, dans une autre culture. Pourquoi s'attacher à celle-là en particulier? Ben, j'en sais rien, moi, parce que ça remonte en moi, cette histoire. Ça me rapproche des ancêtres. Et c'est, quel intérêt, quelle puissance de pouvoir repartir sur les traces des ancêtres et se retrouver en 1917 dans la Somme à Abecourt avec mon grand-père maternel qui a 17 ans. Et qui ne parle pas français, qui est en train de tirer sans doute sur des Allemands. Il ne parle ni allemand ni français. Et il se demande pourquoi il y a toutes ces balles qui sifflent autour de ses oreilles. Il est en première ligne.
Qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire, finalement?
Il est en première ligne, alors qu'en Algérie, au moment du vote, il était au deuxième collège.
C'est ce que vous expliquez, c'est qu'à un moment donné, vous retrouvez alors un document, peut-être le plus important que votre père ait jamais eu, sa carte d'électeur.
Incroyable.
Et qu'est-ce que... Elle est émouvante, cette carte d'électeur.
Elle m'a fait chialer. Deux choses m'ont fait chialer. La première, c'est ça, la carte d'électeur. Et la deuxième, c'est retrouver mon nom sur le site Mémoire des Hommes du ministère de la Défense. Mais la première, la carte, c'est mon père électeur au deuxième collège. Tiens, j'aurais pu la porter, d'ailleurs. Le pauvre, au rectangle, dans le rectangle, signature
ouais.
De l'électeur, il n'a pas marqué son nom, il ne savait pas écrire. Donc, il a essayé de recopier signature de l'électeur. Et il croyait qu'il fallait faire ça, parce qu'un électeur ne pouvait pas être analphabète et ne pas savoir écrire son nom. Et donc, ça m'a fait chialer, bon Dieu. Je me disais, mais l'officier d'état civil français qui était en face de lui, il n'a pas vu que ce pauvre paysan ne sait pas écrire et qu'il était complètement humilié, complètement affaibli humainement par cette obligation qu'il avait de tenir un stylo. D'abord, ça devait être la première fois, devant ce Français, bien habillé, bien élevé, bien propre. Oh, ça m'a déchiré, ce truc. Électeur au deuxième collège, il ne savait pas écrire son nom. Mmh. Et donc, cette histoire de nom, c'est et surtout pour l'enfant, Azouz, qui est à l'école primaire, et quand son papa doit signer le carnet de notes...
C'est pareil.
Il ne peut pas faire, il met un X.
Et donc, il fait l'objet de railleries, d'ailleurs.
Bien sûr.
De la part des autres.
C'est drôle, hein, comme cette histoire de X, Monsieur X, aussi nous rapproche de Malcolm X. Et de toute l'histoire des Noirs américains, descendants d'esclaves, qui ont aussi dû prendre des noms américains qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils sont, à ce qu'ils étaient, à ce que leurs ancêtres furent. Et nous, c'est ce qui s'est passé. Quelle histoire! Begag Bouzid, fils de Abdallah. Mais quel Abdallah? D'où il sort? Il n'y a pas de trace. Déjà, parce que Begag Bouzid lui-même, il n'y a pas de trace de lui.
Alors attendez, il faut expliquer que donc, le héros. Non, parce qu'en fait, c'est un roman à tiroir. Mais donc, à un moment donné, le héros part dans le village, soi-disant le berceau familial.
El Ouricia.
Voilà, pour rechercher l'origine de ses parents. Et là, il arrive quelque part, il rencontre même le plus âgé du village.
102 ans.
Et qui lui dit, mais non, jamais.
Non, le vieux, il m'a dit, laisse-moi réfléchir. Parce que le vieux, on lui a dit, t'as pas connu dans les années 40-50 un type qui s'appelait Begag Bouzid qui serait parti en France comme émigré? Bon, le vieux, il s'est assis, il avait 102 ans, il a regardé le sommet des montagnes des Aurès en face de lui, il a dit, laissez-moi réfléchir. Et pendant quelques secondes, il a exploré sa mémoire. Il en est ressorti, il a dit, non, il n'y a pas de Begag ici, ni de Bouzid, ni d'Abdallah. Oh, je dis, mais enfin, réfléchis, mon père est d'ici, de ce Douar, Ben Diab, il est né là. Il s'est énervé, le vieux. Il a dit, j'ai dit non, il n'y a pas ton père ici. Ça n'existe pas.
Comment est-ce que tu peux mettre en cause ma parole?
Même s'il était au cimetière, là, je te le dirais. Je connais tout ici depuis 102 ans. Pas de trace de mon père. Alors que nous, intérieurement, on était si fiers de savoir son origine terrestre, là-bas où l'avait vu le jour. Eh bien non, il n'était pas là dans les registres extraterrestres. Quelle histoire. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal.
Dans votre enfance lyonnaise, Azouz Begag, il y avait des étés où on retournait au bled pour aller en vacances ou pas du tout?
Si.
Donc.
Effectivement. Donc rien. Donc rien.
Et vous alliez dans quel bled?
À Sétif. Ah oui. La maison où nos vieux, comme tous les vieux maghrébins, comme tous les vieux espagnols, portugais, italiens, ont construit une baraque là-bas, la baraque du retour, du mythe du retour, qui n'habite jamais. Avec le même carrelage, avec le deuxième étage pas fini, avec les armatures métalliques qui sortent en attendant le retour
improbable. Que ce soit fini.
Et à chaque fois qu'on va là-bas en vacances, on est gamin. On a 8 ans, 10 ans, 12 ans, mais on s'enquiquine pas avec les histoires de racines. Mon père, toute la journée, il part, il va voir de vieux copains qu'il a là-bas, mais il ne raconte strictement rien de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont connu. Ils ne veulent pas parler de leur histoire, comme pour ne pas nous blesser.
Et alors, votre héros souffre de quelque chose, c'est qu'il il n'a pas de grands-parents. Donc ça, c'est un mot qui l'intrigue. Donc vous n'aviez pas de grands-parents.
Non,
vous n'aviez pas
aujourd'hui
de...
encore, je suis en face de vous, je suis frustré de ne pas avoir de de ne jamais avoir eu de grands-parents.
Et que vos parents ne vous ont jamais parlé de leurs parents.
Non. Des bribes, des bouts de machin comme ça. Mais rien. Rien. Mais d'où on vient, nom de Dieu, d'où on vient? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que la France a fait durant la colonisation de toutes ces tribus-là? L'orgueil, à mon avis, de tous les gens de cette époque, le 19e siècle, c'était d'appartenir à une tribu, être membre d'une tribu. Nous, on est membre de rien du tout. Même pas de la mairie locale. Pas de nom. J'ai bien l'impression aussi que ce nom Begag Bouzid vient d'un autre type qui s'appelait Begag Bouzid. Non, mais c'est incroyable. Et qu'il, en 1926, lorsqu'il s'est agi de faire le recensement des populations indigènes, mon père, étant trop jeune et ne pouvant pas lire et écrire, il a été accompagné par son cousin, son oncle, on n'en sait rien, qui lui-même s'appelait Liazid Bouzid. Et quand l'officier d'état civil a dit « Comment tu t'appelles ?» Celui qui a accompagné mon père a pensé que la question lui était adressée. Alors il a donné son nom, Liazid Bouzid, et mon père est devenu Liazid Bouzid. Mais je crois qu'il n'avait pas de nom, apparemment, mon père, après. Et c'est plus tard, j'ai recherché, j'ai demandé à mon frère aîné, mais quel est le prénom de notre père?
Parce que votre frère le savait.
Il le savait, mais il ne disait rien non plus.
Il connaissait le prénom.
Oui.
Oui.
Le vrai prénom de mon père, Zartik. Pas Bouzid. D'où ça vient? Mais c'est dingue, cette histoire inextricable. Je me suis dit, tiens, un jour, ça mérite un roman, cette inextricabilité.
Quand on souffre de la maladie d'Alzheimer, parfois ceux qui vous entourent ont cette idée de dire, tiens, on va faire quelque chose qui va lui faire revenir à la mémoire. On peut tester avec des chansons, par exemple.
Ouais. Ah oui, la chanson que chantait toujours mon papa, c'était « Ya raïh win msafer troh ta'ya wetwelli »
Et vous dites que les paroles sont gravées dans votre mémoire.
Et celui, le partant. Où tu vas? Tu vas aller en France? C'est un Eldorado perdu. Tu vas errer, et un jour, tu vas revenir ici, comme bien d'autres avant toi.
Thank you. البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيامك جني فيك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال من مولع تاب الغفلين قبلك وقبلي زين وعلاش هكذاك الزوالي ما تلومش الداوي لا بطيت علم وكتب ليك ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغريك يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك يظهريك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال من مولع فات الغافلين قبلك وقبلك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال من مولع فات الغافلين قبلك وقبلك مسافر نعطيك وصايتي بيها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا نايم جاني خبرك ما صرى لك اسرالي هكذا راد وقدر فنجرين سبحان العالي يا رايح وين مسافر نروح تعيا وتولي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Aziz Begag est l'invité du Book Club à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, ça s'appelle Mémoire au soleil, aux éditions du Seuil. Vous avez des souvenirs très tranchés sur certaines dates, par exemple 1962, 1973. Vous forcez pour le livre ou vous vous souvenez vraiment de 1962 ?
Non, non, 1962, mais pour nous, c'est une date, un marqueur très important. Ah ben, fallait voir la liesse partout, ici en France et là-bas en Algérie. 1962, pour nous, oui, pour tous les enfants issus de cette immigration algérienne, qui devenaient tout d'un coup autonomes, indépendants, avec une carte d'identité. C'était un nouveau monde, une nouvelle ère, bien sûr. 1973, oui, je m'en souviens comme aujourd'hui, parce que ce slogan, nous, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, et que tous les gens qui pensaient que nous, en pauvres prolos issus du monde ouvrier algérien, on avait des puits de pétrole en Algérie, et ils nous embêtaient à cause de ça, en nous demandant de rentrer chez nous, parce que désormais, la crise économique française était due à nos puits de pétrole, puisque l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, avait augmenté le prix du baril d'une manière considérable. Alors là, on a commencé à avoir de graves soucis. C'était en même temps la fin des 30 glorieuses, 1945-1975. Donc nous n'étions plus utiles en France et nous n'étions désormais plus légitimes dans la société française.
Mes parents, écrit le héros, n'ont raconté à personne leur vie pleine de trous, même pas à moi. et sur le passé, celui qui garde fermé la bouche ne risque pas d'avaler des mouches. Finalement, le passé, c'est passé. À quoi ça sert de revenir sur le passé ?
Ah oui, bah vous faites référence à cette expression algérienne très étrange.
J'adore. Celui qui garde fermé la bouche ne risque pas d'avaler de mouches.
C'est les pauvres. Tous les pauvres disent ça. En arabe, c'est l'ifat mat. C'est-à-dire, ce qui est passé, c'est fini. On n'en parle plus. Comment c'est fini ?
Les Américains disent « past is over ».
Oui.
C'est pareil.
Non. C'est pas fini. Sa vie, et ça doit être magnifié, ça doit être déterré pour qu'on en parle et qu'on en discute de cette guerre d'Algérie, de ces 132 années de colonisation, de ces enfumades, de ces enfumades. Beaucoup de Français ne savent pas ce que ça veut dire, enfumade, dans les grottes de Dahra en 1845.
Qui sont inventées par le général Bugeaud.
Le général Bugeaud de la piconnerie. Moi, j'ai pas de nom, je sais pas qui je suis, j'ai rien du tout. Mais ce général Bugeaud, là, qui était là-bas et qui a tout cassé, il faut tuer les Arabes un par un, disait-il, pour les terroriser, qu'ils comprennent que c'est nous, désormais, les patrons de l'Algérie. Il avait un nom à rallonge que je suis allé chercher. Le général de la piconnerie, c'est magnifique, ces noms. Nous, on n'en avait pas, on avait des faux noms.
Alors, si vous avez un nom, mais maintenant...
Oui, alors, ce qui était vraiment... intéressant, c'est de pouvoir, à travers ce livre, eh bien, donner un nom à tous les morts, à tous les ancêtres. Et même, j'ai l'impression que cet hôpital civil de Villeurbanne, où mon grand-père Abdallah est venu mourir en 1917, le 9 mars 1917, mort de la tuberculose qu'il avait contractée au front, dans la Somme, à Abecourt, je crois. Eh bien, je suis retourné dans cet hôpital où il était en 1917. C'est un lycée maintenant, le lycée Frédéric Faïs à Villeurbanne. Et je me suis dit, tiens, le meilleur moyen de faire revivre mon grand-père maternel, Abdallah, c'est de dénommer le lycée Begag Abdallah. C'est un cri
pas mal.
Ouais, c'est un cri que je vais lancer au maire d'actuel de Villeurbanne, peut-être pour donner un nom à ces anonymes tirailleurs algériens.
Faites-le sur Beurre FM, on a une fréquence là-bas. À mon avis, le message va passer.
Parce que c'est un tirailleur algérien qui est mort là, dans l'anonymat le plus total. Et je trouvais qu'avec un livre de littérature, peut-être qu'on pouvait redonner du sens à l'histoire. Et je crois que Abdallah Begag est plus important pour le lycée Frédéric Faïs que l'ancien maire de Villeurbanne qui s'appelait Frédéric Faïs en 1890.
C'était important pour vous de confronter votre histoire personnelle avec vos propres yeux. Pareil, vous allez retrouver le petit-fils d'un colon chez qui vos parents avaient travaillé dans le sud de la France, dans la Drôme, et vous le présentez à vos parents.
Quelle histoire, quelles larmes aussi, combien de larmes. Parce que le type s'appelait Cro, C-R-O, et sa famille là-bas était... la famille de l'autorité politique locale à El Ouricia. Ils étaient les maires depuis toujours, et mes parents travaillaient dans la ferme coloniale de ces crocs. Mais au lieu de dire crocs, ils disaient crocs. Alors pendant des années, j'ai cherché sur internet crocs El Ouricia. Il n'y avait pas de crocs El Ouricia. Jusqu'au jour où je trouve un type d'El Ouricia, de ces types qui me dit, mais c'est pas crocs. C'est Cro, C-R-O. Et là, j'ai refait la jonction, j'ai recherché ce type, j'ai trouvé le descendant Jean Cro à Valence, à 100 km. Je suis allé chez lui. Et ça a été une explosion d'humanité, de larmes et de joie. Et finalement, je l'ai emmené chez moi, voir mes parents,
vos parents
qui avaient grandi dans la ferme, qu'il n'avait pas revu depuis 60 ans. Voilà, mes parents sont morts, lui aussi, mais j'ai fait la jonction entre la colonisation et l'immigration algérienne. C'était vraiment un très très beau moment.
Vous racontez que votre père s'est beaucoup dévalorisé dans sa vie. Il y a cette histoire du bourricot aussi qui est...
Oui, bien sûr.
Qui est dur. Et, un mot qu'on emploie moins d'ailleurs, bourricot.
Il est désuet désormais.
Aujourd'hui, il n'y a que Macron qui pourrait l'utiliser. Non, je dis ça parce que le président de la République utilise des mots désuets.
Oui, mais j'aime bien. D'abord, j'aime bien la langue française, vous l'avez remarqué en général, mais le mot désuet, je l'aime beaucoup. Et oui, bourricot, c'était assez arrogant. C'était plutôt le soldat français qui traitait l'Algérien indigène de bourricot. Et donc mon père s'est mis à reprendre à son compte ce terme pour insulter le frère Nabil qui a pas réussi dans les études parce que la chaudronnerie ça n'intéressait pas beaucoup. Et je me suis rappelé que j'avais un prof de français qui s'appelait Marcel Bourricot et qui a malgré tout réussi à être prof de français, c'était pas mal.
Combien on a de vie dans la vie, Azouz Begag?
En tous les cas, mon idée fondamentale, la philosophie, c'est de dire plus on fait des expériences dans des disciplines diverses, ouais, dans des frontières différentes, dans des pays différents, en politique comme en littérature, au football comme en sociologie, et plus on a besoin de reconquérir de nouveaux codes de fonctionnement, réapprendre, se rénover, redevenir un autre, et plus on est riche, plus on est riche.
Vous avez eu combien de vies ?
5-6. Ouais, 5-6. Et je n'ai jamais regretté, notamment, de faire de la politique. Parce que c'est un monde absolument subtil pour les sociologues, pour les écrivains.
Mais ce que vous êtes, mais qu'est-ce que ça a appris justement aux sociologues et à l'écrivain que vous êtes de faire de la politique ? Est-ce que finalement, c'est ce pourquoi vous étiez le plus doué ?
Non.
Est-ce que vous y avez pris du plaisir ?
Oui, bien sûr.
Oui, bon.
Parce que là où il y a du plaisir aussi, il y a le versant de ce plaisir, c'est-à-dire la douleur, la nécessaire résistance. Hulot ou Darmanin aujourd'hui ne me contrediraient pas.
Cependant, quand on voit Hulot aujourd'hui, on a l'impression qu'il souffre.
Bien sûr.
On dirait vous au pouvoir.
Quel culot vous avez de dire ça. Moi j'avais en face de moi des méchants, des bandits, comme Sarkozy, comme Hortefeux, comme Claude Guéant, qui sont aujourd'hui poursuivis par la justice, et qui sont dans les méandres d'une grosse affaire libyenne, et moi je suis aujourd'hui...
Vous avez des dossiers ? Est-ce que vous avez des dosses ?
J'en ai quelques-uns, mais surtout ce que je veux dire, c'est qu'eux sont aux prises avec la justice. Leur esprit est tendu sur ce que va devenir M. Alexandre Djouri demain, qui a été incarcéré, sachant que Bachir Saleh a reçu une salve de balles hier à Johannesburg. Alors que moi, aujourd'hui, 1er mars 2018, je suis au club Beur FM à parler de la littérature.
Ah ouais ?
C'est la liberté.
C'est mieux. Vous avez longtemps cru, Azouz Begag, que vous pourriez retourner vivre en Algérie, et aujourd'hui ?
Non. C'est impossible.
C'est sûr.
C'est impossible, c'est sûr. Et d'ailleurs, oui, parce que l'Algérie, notamment l'Algérie urbanistique, elle a tellement changé. C'est ce petit bled qui s'appelait Lauricia, qui avait 20 000 habitants lorsque j'y allais enfant, en prenant le ville de Marseille, le bateau à Marseille, à la Joliette, et en arrivant à Alger, et on prenait un petit train.
D'ailleurs, le père de votre héros, s'il y a quelque chose dont il se souvient, c'est le ville de Marseille. Hein.
Ouais. Ah oui, le port de Marseille, la gare Saint-Charles, a pour moi été un souvenir indélébile. Elle restera notamment une petite scène que je raconte, qui a aussi marqué mon esprit arabe, ou mon esprit algérien. Il s'est passé quelque chose ici, à la fin des vacances de 1963-64, à la gare de Saint-Charles, qui m'a marqué à vie.
Bon, ça c'est dans le livre. Vous racontez également votre père quand il se retrouve dans le bus. Il y a une anecdote.
Ouais, c'est très
bon. Il faut dire, puisque tout voilà, on va pas raconter toute l'histoire du.
D'ailleurs, je crois pas que ça se raconte. On peut pas raconter ce livre.
Non. Mais il y a beaucoup de gens qui s'y retrouveront.
Oui, bien sûr.
Bah, qui retrouveront leurs parents, voilà.
Ouais, j'espère avoir écrit un livre avec un caractère universel, c'est-à-dire l'amour qu'on porte à ses parents et à
vos parents, puisque c'est pas un livre que sur votre père, puisque vous rendez l'amour de la même façon à votre mère.
À ma mère aussi, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle en a bavé ?
Vous en voulez pas à votre père ? Alors, c'est à un moment donné.
Non.
Bien. Mémoire au soleil. Azouz Begag, c'est un roman. D'abord, ça fait plaisir de vous avoir revu.
Merci.
Aux éditions du Seuil. À bientôt, Azouz.
À bientôt, dans un an.
Beurre FM, midi 13h, le Book Club, avec Philippe Robichon et Émilie Avril.